beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme maître de maison sortit tôt le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire à leur payer un denier par jour. Ça représente aujourd'hui environ 90 euros. Et les envoya vers sa vigne. Il sortit de nouveau à 9 heures du matin et en vit d'autres qui se tenaient sur la place du marché, des œuvrés. Il leur dit, « Allez, et vous aussi, travaillez dans ma vigne, je vous donnerai ce qui est juste. » Et ils y allèrent. Le maître de maison sortit encore à midi, puis à 15 heures, et fit de même. Enfin, vers 17 heures, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient là. Il leur demanda, « Pourquoi restez-vous ici tout le jour, désœuvrés ?»« Ben, parce que personne ne nous a embauchés, » répondirent-ils. Il leur dit, « Eh bien, allez, vous aussi, travaillez dans ma vigne. » Quand vint le soir, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye à chacun son salaire. Tu commenceras par les derniers embauchés et tu termineras par les premiers embauchés. » Ceux qui s'étaient mis au travail à 17 heures vinrent et reçurent chacun un denier. Quand fut le tour des premiers embauchés, ils pensèrent qu'ils recevraient plus. Mais on leur remit aussi à chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de maison et disaient, « Ces ouvriers embauchés en dernier ont travaillé qu'une heure. Tu les as payés comme nous, qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous un soleil brûlant. » Mais le maître répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te cause aucun tort. N'as-tu pas convenu avec moi de travailler pour un denier? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier, comme à toi aussi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de ce qui est mien? Ou bien ton œil est-il méchant? Parce que moi, je suis bon. » Ainsi, les derniers seront premiers et premiers les derniers. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Recherchez le Seigneur maintenant. Maintenant qu'il se laisse trouver, faites appel à lui. Maintenant qu'il est près de vous, que la personne méchante renonce à ses pratiques, que l'individu malveillant renonce à ses pensées, qu'il revienne au Seigneur, car il aura de la tendresse pour lui, qu'il revienne à notre Dieu, car il accorde un large pardon. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. Maintenant, deux versets dans Philippiens 1, parce que c'est aussi un texte qui est indiqué pour ce dimanche. Dans Philippiens 1, au verset 21, Paul, qui risque à tout moment d'être exécuté en prison, il écrit à l'Église, il leur dit, « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain. Mais si continuer à vivre ici-bas me permet d'accomplir encore quelque chose d'utile pour vous, alors je ne sais que choisir. Faire attention pour cette parabole de ne pas considérer que c'est une prophétie, parce que je n'imagine pas au jugement dernier, après la résurrection, que Dieu nous dise « Prends et va-t'en. Prends ce qui te revient et va-t'en. » Non, quand Jésus raconte une parabole, il a cet art de raconter qui consiste à partir de choses que les gens connaissent, des choses qui sont vécues par les gens, réellement. Et à partir de là, il leur fait toucher du doigt le royaume de Dieu, le règne de Dieu, comment Dieu est tellement différent de nous, tellement surprenant. Et vous voyez ce qu'il arrive à nous faire toucher du doigt, c'est cette injustice. Au moment de la paix, on ne s'attend pas à ça, parce que ça ne se passe jamais comme ça. J'imagine René Mélesville qui, à la fin du mois, on m'a dit, les ouvriers de son mari venaient à la fin du mois. Elle était là, assise à sa table, Elias, le billet était là, et elle donnait le salaire en espèces à chaque ouvrier, suivant les journées qu'il avait travaillé. Là, ici, c'est pas à la fin du mois, c'est à la fin de chaque journée. À l'époque, on payait à chaque fin de journée. Donc les gens ont vécu ces choses-là, d'être payés suivant le travail qu'ils avaient fourni. Et ils pensent réellement à ce dont Jésus parle, ils le voient dans leur tête, ils l'ont vécu. Et puis ça ne se passe pas comme ils ont vécu. Proportionnellement au travail fourni, le salaire. Si Jésus veut nous faire comprendre là comment Dieu est incompréhensible, c'est pour ça que j'ai tenu à lire les trois textes en même temps. Dans Ésaïe, c'est la même chose qu'il nous est dit. Dieu le dit d'une autre façon, mais il le dit, c'est la même chose. Il dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes chemins ne sont pas vos chemins. » On s'est emparé de ce verset d'Ésaïe. Il est très connu, ce verset d'Ésaïe. On dit souvent, même chez les non-croyants, on dit « Les pensées de Dieu sont impénétrables. » Vous l'avez entendu, ça. Les pensées de Dieu sont impénétrables. Et quand est-ce qu'on dit ça dans la vie quotidienne? Ben, quand on est devant un événement tragique, devant un malheur, devant quelque chose qui a fait beaucoup souffrir les gens, les pensées de Dieu sont impénétrables. Et ça vient de ce texte de Ésaïe, cette parole, que tout le monde répète sans même comprendre que quand Dieu a dit ça à Israël, il ne le disait pas à propos du malheur. Il le disait à propos du pardon, à propos de sa tendresse et de sa disposition à accueillir chaque être humain. Il est tellement disposé à accueillir. Et pourquoi Ésaïe dit à ce moment-là, à quel moment il dit ça, Ésaïe? À un moment où le peuple d'Israël est totalement désespéré de lui-même. Il a été exilé de sa terre, il a perdu sa capitale, il a perdu le seul lieu où Dieu avait dit qu'il résidera toujours, le temple de Jérusalem. Il l'a perdu. Il l'a toujours perdu. Le temple de Jérusalem n'existe toujours pas. Il a reperdu une seconde fois après. Jésus y a été, et puis il a de nouveau perdu ce temple, le peuple juif. Alors il se dit désespéré. Il dit, ben, on est allé trop loin. En désobéissant à Dieu, on est allé trop loin. On a fait trop fort dans le mal, là. Là, il n'y a pas de pardon. Puis on a essayé, on n'a pas eu de réponse. On a essayé de s'améliorer, ça n'a pas marché. Alors Esaïe dit, mais Dieu, il ne pense pas comme vous vous pensez. C'est là qu'il faut penser à cette parole, les pensées de Dieu sont impénétrables. Dieu ne pense pas comme vous. Vous, vous pensez que vous ne valez plus rien. Mais Dieu ne pense pas ça. Dieu a plein de tendresse en réserve. Il a un pardon dont vous n'avez aucune idée. Donc il est prêt à vous combler à tout moment. Voilà. Les pensées de Dieu sont impénétrables. Et Jésus dit la même chose à travers cette parabole. Nous allons être surpris par la façon dont Dieu est juste. Et Jésus met en scène dans la parabole des hommes qui trouvent que c'est injuste. La façon dont Dieu est juste, ils la trouvent injuste. Parce que Dieu commence par les derniers. Est-ce que nous croyons que nous pouvons encore, nous qui sommes croyants, moi je peux vous dire que j'ai rencontré le Seigneur en 1985, j'essaye d'être fidèle depuis, donc je suis de ces vieux-là qui ont quelques années de vie avec le Seigneur, des hauts, des bas. Et ce qui c'est en train de s'estomper dans le croyant, dans tous les croyants, c'est on s'habitue à cette bonté de Dieu qui est venue nous chercher comme on était. On s'habitue. Et puis finalement, on se voit pas si mal que ça, quoi. Mais Dieu, il sort encore aujourd'hui de chez lui. Parce que ça aussi, c'est un élément que les gens n'ont certainement pas vu. Un patron qui sort à 17h le soir pour embaucher à 17h. Je ne pense pas qu'il y a des patrons qui font ça. Je ne pense pas qu'Olivier Ménesville, il allait chercher des maçons ici sur la place du village à Thiers pour un chantier qui finit à 18h. Ça ne se voit pas. Je ne pense pas. Mais Dieu, oui. Il sort encore. Et vous remarquez comment Jésus annonce les différentes heures, tôt le matin. Franchement, ça aussi, déjà, on devrait dresser l'oreille. Tôt le matin, c'est pas le moment d'embaucher. On embauche à 9h, pour que les gens soient réveillés quand même. Non, tôt le matin. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore comme heure? Vous avez suivi, vous? 9h, midi, 15h, 17h. Il sort 5 fois, 5 heures sont mentionnées, 5. Vous imaginez bien que dans la tête de Jésus, c'est toutes les heures, en fait. Jésus parle de son élévation vers le Père sur la croix comme de l'heure qu'il a vraiment attendu, vers laquelle il est toujours orienté vers une heure, ou une heure. Mon heure n'est pas venue, il dit à Marie, sa mère, à Cana. Et pourtant, elle reçoit le miracle. Et tout le monde en profite. Hein. Mais c'était pas l'heure. Mais quand même, il y a eu quelque chose. Et puis il y a eu plein de miracles avant que l'heure où Jésus est élevé vers le Père, où le pardon va exploser, va être répandu sur toute créature. Eh bien, il y a eu plein de choses avant l'heure. Et il y a eu des choses avant Jésus. Le peuple d'Israël a vécu des miracles. Dans le psaume qu'on a lu au début, il y avait le mot « prouesse ». Je raconterai des prouesses, des grands faits de Dieu. La traversée de la mer Rouge, des délivrances spectaculaires. Et Jésus aussi a fait des choses comme ça. Il a marché sur la mer pour sauver les disciples en perdition à cause d'un orage subit qui était arrivé sur ce lac de Kinneret, lac de Galilée. Les orages peuvent venir même si la météo ne les a pas prévus là-bas. Parce qu'il suffit qu'il y ait la conjonction de deux vents qui se rencontrent là dans cette cuvette du lac de Galilée pour qu'il y ait subitement une tempête, alors que c'était calme une heure avant. Donc Jésus les a rejoints. Dieu est ce Père qui sort. C'est ça que Jésus a dit dans tout son ministère. Le Père sort, Dieu sort, Dieu sort vers les hommes. Nous rêvons tous de nous entendre dire par Jésus, aujourd'hui, tu seras avec moi, dans le paradis. Ah, s'il pouvait me dire ça, ce serait bien. Mais Jésus l'a dit en fait aussi, à une personne dans l'évangile. Et cette personne, est-ce qu'elle a travaillé dans la vigne? C'était l'homme qui était crucifié à côté de lui. Il n'a pas eu le temps d'aller travailler dans la vigne, lui. Mais il a entendu la parole. Et quand Jésus dit quelque chose, c'est vrai, hein? Il est dans le paradis. Il n'a pas eu le temps de faire quelque chose dans la vigne. Cela nous fait toucher du doigt que quand Jésus parle de la vigne, il ne parle pas forcément d'aller faire quelque chose. Parce que aussi, vous voyez, on tord toujours la parole. Il faut faire très attention, surtout quand on a étudié la théologie, quand on a étudié la Bible. On croit qu'on a compris, oui, on a compris qu'on n'a pas compris. Parce que la parabole, c'est vraiment ça. Comprendre que tu ne comprends pas. Comprendre que l'amour de Dieu, d'accord, tu l'as expérimenté, mais tu ne le comprends pas. Et donc, si tu ne le comprends pas, c'est qu'il est disponible pour des gens à qui tu ne penserais pas. Et il est disponible et il vient vers les gens. Jésus dit bien que ce maître de la maison, il sort de chez lui, il va dans la place publique. J'ai un peu perdu le fil, comme d'habitude. Comprendre qu'on ne comprend pas. Voilà, c'était pour la vigne. Je disais que cet homme qui s'est entendu dire par le Seigneur, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je vous disais qu'il n'avait pas eu le temps d'aller dans la vigne. Et pourtant il est allé. Parce que quand dans la Bible on parle de la vigne, il s'agit évidemment d'Israël. Ça, vous voyez beaucoup de textes, le plus fort c'est Ésaïe 5, Ésaïe chapitre 5. Mais il y a beaucoup de textes qui disent que Israël c'est la vigne de Dieu. C'est le peuple que Dieu construit, que Dieu crée, que Dieu garde, que Dieu maintient dans l'histoire pour montrer combien son pardon est extraordinaire, combien il a une puissance de création dans l'histoire, créer des choses qui n'existent pas pour que son royaume finisse par triompher dans ce monde. Ça c'est le but de l'histoire d'Israël qui est la vigne de Dieu dans laquelle nous sommes appelés donc à travailler. Mais cette vigne, ça n'a pas marché. Il y a beaucoup de textes aussi qui disent que la vigne, Dieu a été obligé de la laisser ravagée par les bêtes sauvages, par les ronces, et c'est plus rien du tout. Mais voilà, Jésus arrive, il dit, je suis la vigne. Ah, elle existe. Ah oui, elle existe. Et il a dit, je vous attends ça. Donc, cet homme sur la croix, il est allé dans la vigne. Parce qu'il est allé avec Jésus dans le paradis. Donc, quand on travaille, il faut se rappeler cela. D'accord, on se donne la peine, on souffre. Mais c'est Dieu qui produit cela. C'est Dieu qui nous a fait cette grâce de nous appeler. Et
c'est un peu curieux que Jésus, c'est pas dans tous les manuscrits, mais vous verrez qu'il y a des manuscrits qui disent que Jésus a terminé la parabole en disant il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'a jamais fini de comprendre cette élection, qu'on ne doit pas s'habituer à se dire, voilà, j'ai compris l'amour, j'ai compris comment Dieu aime. Oui, t'as compris, j'ai compris. Mais je dois surtout comprendre que j'ai encore pas compris que Dieu, ses pensées ne sont pas les miennes. Ses chemins ne sont pas mes chemins. Et heureusement, parce que si les chemins de Dieu étaient ceux que nous, on lui indique, il n'irait pas vers beaucoup de gens. Hein. Parce que nous, on sélectionne. Hein. Il y a quelqu'un qui, lors de l'étude biblique, jeudi, a dit, oui, on rencontre dans l'Église des croyants très pieux qui envisagent très bien de s'asseoir à la droite de Dieu pour le conseiller. Voilà. Mais ça ne va pas. Nous n'avons pas à conseiller Dieu sur la manière dont il doit aller vers les hommes. Ses chemins ne sont pas nos chemins. Et c'est rassurant, parce que Dieu a donc toujours un chemin pour n'importe quel être humain. Quel que soit le chemin que cet être humain a choisi de suivre dans sa vie, Dieu, lui, il a un chemin. Un chemin pour le rejoindre sur son chemin à lui. Les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Mais par ses chemins, il nous rejoint sur nos chemins. Et il rejoint aussi mon frère, ma sœur, sur son chemin. Et maintenant, pourquoi j'ai aussi tenu à vous lire l'épître dans Philippiens, l'apôtre Paul dit, « Pour moi, vivre, c'est Christ. » Et il dit que les deux possibilités pour lui sont à peu près équivalentes. Il y en a une qui est meilleure, c'est de s'en aller tout de suite avec, d'être tout de suite maintenant avec le Christ, c'est-à-dire d'accepter d'être tué là, dans la prison où il se trouve. Bon, ça c'est pas mal, c'est même le mieux. Mais il y a aussi le fait que si je viens vers vous, on pourra vivre ensemble quelque chose de l'amour du Christ, et ça me réjouit aussi, de revenir vers vous. Donc vous voyez que pour lui, sa vie ou sa mort, c'est deux façons d'aller dans la vigne. La vigne qui est l'Église, où il faut prier, combattre ensemble pour que la progression du règne de Dieu sur cette terre, ou bien la vigne qui est Jésus, c'est toujours la même vigne, que Jésus soit dans l'Église ou à la droite du Père, rejoindre la vigne qui est Jésus à la droite du Père. Alors ça, c'est le bonheur. Dieu nous a donné un bonheur, il nous a donné un amour qui n'est pas à la mesure de ce que nous pouvons imaginer. Amen.